Bonjour à tous. Comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà peu serein, les émeutes provoquées par la mort du jeune Naël à Nanterre ont sidéré le monde et les Français eux-mêmes. Plus brèves qu'en 2005, 6 jours à peine, plus violentes aussi, elles ont embrasé les quartiers, mais aussi certains centres-villes et des territoires jusque-là tenus à l'écart des violences urbaines. Depuis, un calme suspect semble s'être abattu sur le pays. Peu de prises de parole marquantes, aucune allocution présidentielle pour mettre des mots sur ces événements. Alors que s'est-il passé au juste? Comment en sommes-nous arrivés à une telle fracture? Où va notre pays alors que la concorde civile semble désormais si fragile? Pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur QG Olivier Roy, politologue, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, l'un des meilleurs spécialistes français de l'islam politique et des phénomènes de radicalisation en France. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, revenons bien sûr sur les faits qui se sont déroulés en ce début d'été. Un adolescent tué par la police, des cités qui s'embrasent pour plusieurs nuits, le même schéma se répète de 2005 à 2023. Néanmoins, le soulèvement récent n'a pas tout à fait le même visage, je crois que vous en conviendrez. Une durée moindre, je le disais, mais une intensité plus extrême encore et des pillages de magasins. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé à vos yeux ?
D'abord, je dirais, on a affaire à une nouvelle génération. Il est clair que les émeutiers sont beaucoup plus jeunes qu'ils l'étaient en 2005 et qu'ils l'étaient dans les soulèvements antérieurs. On en est à la quatrième génération de soulèvements dans les quartiers difficiles. Ils sont plus violents aussi, justement, parce qu'ils sont beaucoup plus déstructurés, beaucoup moins encadrés socialement, dans des liens familiaux beaucoup plus distendus. Ils ne sont pas du tout dans une revendication, disons, qui pourrait s'exprimer en termes politiques. Donc, ils sont plus violents. Et comme c'est plus violent, c'est plus bref, parce qu'on détruit beaucoup plus, mais aussi ils sont dans la consommation, ils pillent. Le pillage a été manifestement beaucoup plus fort que dans les émeutes avant. Donc derrière la protestation, il y a aussi autre chose. Il y a cette espèce de consumérisme irresponsable, je dirais. Voilà, c'est ça pour moi les éléments fondamentaux. Et ça explique pourquoi c'est bref, ça ne dure que quelques jours. Et maintenant, est-ce que ça veut dire que ça peut recommencer dans 2-3 jours, ou bien dans 4-5 ans, on verra.
Alors, le maire de Trappes, Ali Rabé, a dit dans un grand entretien récent qu'il était bien sûr allé se promener dans sa ville à la rencontre des jeunes émeutiers. Il a dit la chose suivante, la rupture avec les institutions est vertigineuse. Elle va au-delà de ce que j'imaginais. J'ai vu dans les yeux des jeunes une haine de la police qui m'a glacé le sang. Alors lui, on ne peut pas l'accuser, hein, bien sûr, d'être un idéologue du grand remplacement. Comment vous interprétez ces paroles ?
Il y a un clivage là, qu'on ne voit pas trop, qui est justement le clivage entre les secondes et troisièmes générations issues de l'immigration des années 60-70, qui, eux, se sont parfaitement intégrés socialement et politiquement. Parce que maintenant, on les retrouve dans les conseils municipaux, dans les partis politiques, on les retrouve comme maires, on les retrouve députés. Et puis, je dirais, on retrouve dans les classes moyennes, voire dans les classes supérieures. On retrouve des chirurgiens, des préfets, des hauts fonctionnaires, des grands journalistes, etc., etc. Et cela ne comprennent plus les jeunes, qui très souvent sont les jeunes des quartiers dont ils sont eux-mêmes issus. Donc, il y a un clivage générationnel à l'intérieur de l'immigration qu'on voit mal, parce que ce clivage générationnel, il est aussi un clivage social. Et ce que ne comprennent pas du tout, évidemment, les partisans ceux qui parlent du grand remplacement.
Qu'est-ce que vous, Olivier Roy, vous répondez à ceux qui ne comprennent toujours pas? On a assisté à ces discours-là à chaque émeute urbaine depuis des dizaines d'années, qui ne comprennent pas que ces jeunes gens brûlent des écoles, brûlent des représentations de l'institution publique. Autant de choses que le contribuable français est censé avoir mis à leur disposition.
Alors depuis, disons maintenant, 40 ans, toutes ces émeutes sont déclenchées par la même chose, c'est-à-dire un jeune meurt dans une rencontre avec la police. On n'est pas là pour distribuer les bons et les mauvais points, c'est un fait. Ce conflit, je dirais, entre la police et ces jeunes, parce que sur le terrain, la police se comporte très souvent comme si c'était une bande, c'est-à-dire ils ont dans le fond les mêmes codes, parfois, que les jeunes qu'ils combattent. La violence d'abord, ils ne comprennent que la violence, etc. Et puis, fuit ce côté un petit peu aussi machiste dans la relation à autrui. Donc, je dirais, il y a cette espèce de désinstitutionnalisation de la police, hein, et cet effet de miroir très fort dans les banlieues. Je ne dis pas que la police se comporte partout comme ça. C'est pas du tout. On n'a pas affaire à la même police. D'ailleurs, les braves sont un type de police très spécifique, comme les BAC. Mais la rencontre des jeunes avec la police, c'est la violence. Bon, donc ça, il faudrait peut-être déjà en tirer les conséquences. Ce qui fait que pour les jeunes, les institutions sont totalement négatives, parce que ces jeunes-là sont aussi, je dirais, l'échec de l'insertion sociale. Encore une fois, ce n'est pas une question d'immigration, puisqu'une grande partie de l'immigration s'est parfaitement intégrée socialement, et l'ascenseur social fonctionne, contrairement à ce qu'on croit. Mais il reste un espèce de fond dans ces quartiers-là, complètement désocialisé, parce que, tout simplement, les institutions sont en crise. L'école est en crise, la police, on l'a vu, est en crise, les éducateurs n'arrivent plus à gérer ça, parce qu'ils ont une culture de travail éducatif qui ne correspond pas justement à la violence qu'ils ont en face d'eux. Et puis, les structures familiales se sont très largement effondrées. Donc, ces jeunes sont des desperados. Hein, c'est-à-dire, ils n'ont rien à perdre. C'est pour ça qu'ils cassent, on dit qu'ils cassent leur propre quartier. Mais ce quartier, dans le fond, leur renvoie l'image d'eux comme des ratés, comme des losers. Donc, ils se vengent sur leur propre quartier. Psychologiquement, ça se comprend. Politiquement, c'est absurde. Socialement, c'est absurde. Mais psychologiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, au moins, ils se créent une espèce d'image de héros. C'est plus que se venger. Ils se lancent des défis, ils se mettent en scène, ils se filment. Ils sont tout à fait dans la culture moderne de l'exhibition de soi. Et ils en tirent une jouissance. Et c'est ça qu'on ne voit pas. Ils sont à la fois nihilistes, mais en même temps, ils sont dans une certaine jouissance d'eux-mêmes, qui ne dure pas.
Parmi les constats qui ont été faits, peu de temps après ces nouvelles émeutes, il y a eu un entretien très spectaculaire dans le Figaro qui a été donné par l'ex-directeur de la DGSE, Pierre Brochand. Je ne sais pas si vous avez lu ça de près, mais bon, lui fait un lien avec l'immigration qu'il appelle de peuplement. Et il qualifie les 6 jours d'émeute auxquels nous avons assisté de soulèvement contre l'État national français d'une partie significative de la jeunesse d'origine extra-européenne présente sur son territoire. Qu'est-ce que vous inspire ce constat ?
Ben ça, c'est de l'exagération. D'abord, quand il dit une partie significative, lui, les chiffres, les jeunes à 100 000, mais les estimations qu'on a de la DGSI, hein, donc de l'intérieur, parce que lui, il était DGSE extérieur, il ne travaillait pas sur les banlieues. La DGSI est beaucoup mieux, beaucoup plus informée. Eux parlent au maximum de quelques dizaines de milliers. Donc on est loin, disons, d'une révolte de la jeunesse d'origine immigrée. On est dans, comme je disais, la queue de la comète, la partie de l'immigration qui n'a jamais réussi à s'intégrer. Voilà. Il n'y a pas vraiment de dimension ethnique là-dedans. Il se trouve que sociologiquement, ils reflètent les quartiers d'où ils viennent. C'est des quartiers qui ont une majorité de population d'origine immigrée, donc on trouve une majorité de jeunes d'origine immigrée, point. Mais ça n'est pas une révolte de l'immigration. Il n'y a pas de dimension religieuse en particulier. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient énormément qu'il y ait une dimension religieuse, que ces jeunes crient à l'Akbar, portent des drapeaux palestiniens, etc. Ça, pas du tout.
Et là, cette fois-ci, pas du tout.
Alors, pas du tout. Il y avait dans les années 80, 90 et même un petit peu en 2005, il y a eu des drapeaux palestiniens, il y avait une tentative, disons, de se situer dans le champ politique, d'avoir un message politique. Là, ça a totalement disparu, et sur le plan religieux également. Ces jeunes-là n'écoutent personne, à commencer par les imams. Donc je crois qu'il y a un problème qui est, on a fait fausse route, on a poursuivi des fausses pistes. Une de ces fausses pistes, c'est le lien entre malaise de la jeunesse de banlieue et djihadisme. Il se trouve qu'un pourcentage significatif de djihadistes venaient des banlieues, mais c'est pas du tout, si vous voulez, général. Et surtout, par exemple, on ne trouve dans les djihadistes aucun jeune qui a participé aux émeutes de 2005, parce qu'on le connaît, leur CV, on les connaît, ces gars-là. Bon, il n'y a pas de ça. Il n'y a aucune dimension religieuse là-dedans. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et ça, je crois que c'était la grande erreur. Dans la lutte contre le soi-disant séparatisme, on a vu ce séparatisme comme étant essentiellement religieux et pas social, et on s'est attaqué à tout ce qui était manifestation d'une possible religiosité. C'est-à-dire même pas d'un fondamentalisme, hein, même pas d'un extrémisme, mais d'une simple religiosité. Donc du coup, on s'est attaqué tous à tout ce qui était musulman. Or, beaucoup d'éducateurs, par définition, sont des musulmans, plus ou moins pratiquants, évidemment. Certains ne le sont pas du tout, d'autres le sont, je dirais, et alors mais du coup, on a fait une pression, sur les imams, donc ils sont maintenant tous dans leur mosquée, ils bougent pas, ils disent rien, ils ne sont plus des acteurs sociaux, à supposer qu'ils l'aient été à un moment donné. Et deux, on s'est attaqué à tous les gens qui faisaient du social, du culturel, qui montaient des associations, des clubs de sport, etc. Et on a fait des contrôles pour savoir s'ils respectaient la laïcité, laïcité, etc. Donc on les a largement délégitimés, déconsidérés et découragés également. Donc sous prétexte de lutter contre le séparatisme islamique, on a contribué à la désocialisation des quartiers. Alors je ne dis pas que l'islam est un facteur de socialisation, mais je dis simplement que dans les acteurs de la socialisation, il y a évidemment des musulmans, comme autrefois dans les années 50, il y avait des curés et des militants communistes. Il ne faut pas croire que les animateurs sont des gens qui sont des fonctionnaires qui obéissent à leur ministère de tutelle. Il y a dans ce côté animation culturelle, animation de réseaux sociaux, ce sont des volontaires très souvent, et la plupart du temps. Ce sont des militants, et ils ont forcément des motivations qui, pour certains, peuvent être liées à leur foi, à leurs idéaux, etc. Bon, et on l'a tapé dessus. On l'a tapé dessus systématiquement. Donc maintenant, il n'y a plus rien. Voilà, parce que l'État, évidemment, était incapable de remplacer ça. Tout le monde sait que les collèges ne fonctionnent pas. Et au lieu de se lancer dans une véritable réforme des collèges, c'est-à-dire valoriser le rôle du professeur, former les professeurs, etc., maintenant, on recrute à peu près n'importe qui. On a baissé le niveau de recrutement parce qu'il faut tout simplement remplir les cases et que le collège, sur le papier, la rentrée se fasse conformément au programme. Et du coup, c'est une catastrophe.
Alors, effectivement, pour rester un tout petit moment sur la question de l'islam et des banlieues, on sait qu'en 2005, dans l'atmosphère de l'époque, rappelons-nous que c'était 4 ans seulement après le 11 septembre, certains idéologues français, à la Alain Finkielkraut, avaient donné à penser qu'il y avait une espèce d'intifada des banlieues en cours. Et je me souviens notamment de l'expression très forte de pogrom anti-républicain. Cette fois, cette dimension est totalement absente. Et même ce type d'idéologue n'arrive pas à la fourrer dans la situation de force, on dirait.
Oui, ils aimeraient bien retrouver des drapeaux palestiniens, des slogans politiques, etc. Mais non, c'est une émeute, un point. Donc c'est intéressant justement de voir que ces qualificatifs d'intifada, de pogrom, ne reviennent pas dans le discours de droite. Dans le discours de droite et d'extrême droite, c'est un discours maintenant ethnique, voire quasiment raciste, qui est présent. Il y a un discours anti-jeune. Ça, c'est très très clair. On a beaucoup de gens qui ont fait 68 et qui maintenant tapent sur les jeunes, évidemment.
Alors, pour rester un petit moment sur ces discours idéologiques qui habillent ce type d'événement, on sait que les théoriciens et les propagandistes, quel que soit leur niveau du grand remplacement, actuellement exultent, évidemment. On a eu quelques interventions d'Éric Zemmour à la télévision, on a Renaud Camus sur les réseaux sociaux, on a Finkielkraut qui ressurgit dans le Figaro, et bien sûr toute une droite, hier encore prétendument républicaine, qui montre qu'elle est tout à fait prête à aller très rapidement sur le terrain de l'ethnique. Ils pensent avoir vu à l'écran, avec ces événements de juin 2023, la confirmation de leurs prophéties les plus sinistres, à savoir des hordes comme ça, extra-européennes, pour reprendre les mots de l'ancien patron de la DGSE, qui seraient en train de dévorer une France trop faible à leur égard de l'intérieur. Donc en plus, tout ça nous renvoie évidemment directement à la 5e colonne. Néanmoins, est-ce que face à ça, le récit alternatif de la gauche, celui que heureusement encore quelques personnes tentent de porter, le discours social, n'est pas difficile, de plus en plus difficile à tenir?
Alors d'abord, le discours de la droite, sauf pour l'extrême droite comme Zemmour, mais le discours des Républicains est quand même un peu contradictoire, parce qu'ils ont parmi eux Rachida Dati et plein d'autres gens comme ça, qui sont précisément la preuve de l'intégration des secondes générations dans les institutions françaises. Donc on voit ici que l'intégration, c'est pas une question d'être d'origine musulmane ou pas, c'est une question sociale et c'est une question d'études, très souvent. C'est pour ça que c'est très genré aussi. Les filles, on le sait, réussissent mieux que les garçons, pour des tas de raisons. Mais cette intégration cette accession aux classes moyennes et supérieures d'une grande partie de l'immigration est un fait sociologique. Bon. Donc on ne peut pas dire que c'est un problème d'immigration. Ces jeunes sont troisième génération maintenant. Donc là, on en est un problème social. Bon. Si formuler leur révolte en termes musulmans ou arabes, d'accord, là on pourrait dire qu'il y a une revendication identitaire. Mais il n'y a même pas de revendication identitaire. Maintenant, la gauche est très désarmée par rapport à ça. Elle a un discours angélique. C'est les problèmes sociaux, c'est les problèmes sociaux. Mais la gauche n'a pas de réponse politique. Et la gauche a été au pouvoir. Il ne faut quand même pas oublier complètement ça. On a eu Mitterrand, on a eu Jospin, on a eu Hollande. Bon, qu'est-ce qu'a fait la gauche sur les quartiers? Rien. Et il y a eu un très gros problème qui est celui, je dirais, l'intégration de l'encadrement politique des espaces d'exclusion sociale. Ce que le Parti communiste avait su faire autrefois, avec des résultats qu'on peut parfois contester, mais peu importe. Il y a un grand problème, par exemple, dans l'ex-parti socialiste, parce que j'ai vu, moi, à Dreux et dans d'autres villes sur lesquels lesquels je travaille. C'est leur problème pour l'intégration des secondes générations dans l'appareil politique. Bon, alors, on a aussi, parmi les deuxièmes générations qui montent, qu'on fait des études et qui veulent faire de la politique, on a une grande ambition. C'est-à-dire, d'un seul coup, ils veulent monter, ils veulent venger la misère de leurs parents. C'est le discours qui revient régulièrement quand je discute avec des jeunes militants. Là, je ne parle pas des émeutiers. Ils disent, moi, je veux réussir, je veux une position éligible, je veux ceci, cela. Et on a des clashs dans les partis de gauche là-dessus. Et il y a un plafond de verre dans les partis de gauche aussi. Il ne faut jamais, jamais oublier ça. D'autre part, il y a une crise du militantisme. Qui c'est qui va dans les quartiers? Qu'est-ce qu'on trouve dans les quartiers comme parti politique, hein? Pratiquement personne. Personne. Hein? Surtout pas le Front National, bien sûr. Il n'y a personne. Il y a un vide politique. Et ce sont les éducateurs, en gros, qui sont sur le terrain, mais qui sont souvent méfiants par rapport aux politiques. Et parfois pour de bonnes raisons.
Puisque vous parliez de la position de la gauche par rapport au quartier, on se souvient de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur du premier quinquennat Macron, ancien membre du PS. Hein. Enfin, je ne sais pas où il en est, mais bon, voilà. C'est sa provenance. Et des paroles absolument étonnantes qu'il avait prononcées en 2018 lors de sa passation de pouvoir. Il était démissionnaire avec Édouard Philippe. Édouard Philippe était Premier ministre, mais bon, c'est lui qui faisait l'intérim. Et il avait dit, si mes souvenirs sont bons, il avait dit qu'il avait attiré l'attention sur la situation extrêmement dégradée des quartiers sensibles. Et il avait dit, aujourd'hui, nous vivons côte à côte. Un jour, il ne faudrait pas que nous vivions face à face. Comment vous interprétez cette phrase, tout d'abord? Est-ce que vous y voyez une outrance? Comment vous l'entendez?
Bah, tout dépend de ce qu'il appelle nous. Ça, c'est ça. Parce que c'est quoi les autres? Alors, si c'est les arabo-musulmans, oui, d'accord, là, on est dans du Zemmour. Hein, ça, c'est très clair. Bon. Mais encore une fois, ces jeunes ne sont pas les immigrés. Hein. C'est une des conséquences de la crise de l'intégration, de l'immigration de travail arrivée dans les années 60-70. Bon. Et encore une fois, ce sont ceux qui n'ont pas réussi alors que d'autres ont réussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais, ça, c'est un problème général de la gauche, c'est que la gauche a, pour l'essentiel, hein, adopté le discours de la laïcité républicaine, des valeurs républicaines, etc. Bon, j'ai rien contre ça. Mais ce discours, le problème, c'est qu'il fonctionne aujourd'hui de manière complètement incantatoire. Quand un professeur est sommé dans un collège de banlieue d'inculquer la laïcité aux jeunes qu'il a en face de lui, s'il commence par dire la laïcité, c'est la tolérance, tout le monde rigole, évidemment. Bon. Et là, on a un discours incantatoire qui n'est pas connecté à une réalité sociale. Le discours de la lutte des classes, on peut penser ce qu'on veut, mais au moins il était connecté, ça, c'était la moindre des choses. Le discours laïque, anti-église, anti-bien-pensant, etc., était également connecté sur, disons, la montée en puissance de petites classes moyennes, etc. Bon, là, on a un discours complètement incantatoire, qui est d'ailleurs récupéré par la droite, puisque maintenant, Marine Le Pen est laïque, hein, elle n'est plus France catholique, etc. Ça, c'est, elle le laisse à sa nièce. Et la gauche ne sait pas quoi faire d'autre que maintenir ce discours incantatoire. La gauche n'a pas compris que, effectivement, il faut un discours beaucoup plus adapté à la situation sociale. Alors, on parlait de laïcité ouverte, bon, on ne va pas rouvrir le débat, si j'ose dire. Mais il faudrait cesser de faire du discours incantatoire, parce que là, on fait le jeu de la droite. Il faut vraiment travailler sur le social. Mais il n'y a plus personne. Le problème de la gauche, maintenant, c'est que la gauche, c'est, en tout cas la gauche la plus à gauche, s'est enfermée dans un débat sur l'identitaire.
Vous pensez que c'est le cas de la France insoumise, par exemple, aujourd'hui?
Une grande partie, parce qu'il n'y a pas de doctrine de la France insoumise. Hein. Vous avez des courants, vous avez des thèmes qui parfois s'associent, parfois se clashent entre eux, etc. Mais tout le discours sur l'identité manque le social. C'est ça un peu le paradoxe. Parce que quand on mobilise sur l'identité, on mobilise sur le même, sur ce qui se ressemble. Et après, on débat sur l'émiettement de l'identité. LGBT+++, intersectionnalité. Donc chaque fois, on est dans des divisions qui aboutissent finalement à l'individu. Moi et mon identité, qui est un discours qu'on entend énormément sur les réseaux sociaux, par exemple. Tout le monde est obsédé par l'identité. On a cru au début, un peu dans une perspective multiculturaliste, qu'avec l'identité, on retrouvait du collectif. Mais non, il n'y a aucun collectif dans l'identité. On est dans la division à l'infini des marqueurs qui constituent une identité. C'est ce que j'explique dans mon dernier bouquin, L'aplatissement du monde. Bon. Et tant qu'on n'arrivera pas à réconcilier identité et mouvement social, on est perdu. Alors la droite, elle arrive à reconnecter identité et société, évidemment, hein, par le thème de l'identité nationale, par exemple. Bon. Les islamistes aussi, bien entendu, par le thème de l'identité religieuse. Mais la gauche manque complètement ça. Donc la gauche a paradoxalement un problème avec le social, aujourd'hui. Comprendre le social et avoir les mots pour parler du social.
En l'occurrence, ça pourrait être quoi ces mots aujourd'hui dans cette situation pareille?
La recréation du lien social, c'est-à-dire comment on fait de l'association, par exemple, comment on soutient les gens, en particulier les femmes, les mères de famille, qui essaient de faire quelque chose dans leur quartier. Ça commence vraiment à la base. Or, on n'a pratiquement aucun mouvement éducatif, social ou autre qui travaille à ce niveau-là. On laisse ça à des individus qui sont tapés dessus par l'État, parce qu'on est toujours les soupçonnés d'intégrisme ou je ne sais pas quoi. On les accuse de communautarisme et on a cette idée que c'est l'État qui va régler les choses. On voit bien que l'État ne règle rien du tout. Donc, un problème de qu'est-ce que c'est que militer à la base.
Alors, une chose extrêmement frappante, évidemment, une fois de plus avec ces émeutes, c'est l'absence de toute politisation du point de vue du sujet de ces émeutes. L'absence de coordination, l'absence d'organisation, l'absence de porte-parole, l'absence de discours objectif. Évidemment, c'est encore plus frappant que ça ne l'a été lors du mouvement des Gilets jaunes, hein, qui pourtant... voilà, qui ont reproché déjà hein, de ne pas être structuré, de ne pas avoir de porte-parole bien identifiable et légitime. Est-ce que toute émeute de banlieue est vouée à rester sans objectivation ou est-ce que c'est remédiable?
Alors d'abord, l'absence de politisation, c'est une conséquence de la crise du politique. C'est-à-dire que quand on voit que dans le champ politique, c'est un champ de ruines, c'est un champ de conflits narcissiques, en gros. C'est, voilà ce que c'est le champ politique aujourd'hui pour les gens. On est toujours à s'interroger sur la personnalité du président, de Mme Le Pen, de Mélenchon, etc. C'est devenu maintenant un jeu d'acteurs. Bon, donc il ne faut pas s'étonner que personne n'ait envie de se politiser, disons, en miroir par rapport à l'univers politique d'aujourd'hui, à la scène politique d'aujourd'hui. Par contre, je dirais, vous avez mentionné les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'étaient pas du tout dans le nihilisme. Ils étaient dans la demande de reconnaissance et de reconstruction du lien social. Je crois que c'est extrêmement important chez les Gilets jaunes. L'histoire des transports, leur manière de socialiser entre eux, ils ont essayé de créer des espaces de socialisation.
La demande de démocratie directe.
Oui, la demande de démocratie. Ils se sont fait taper dessus par tout le monde. Par tout le monde. Bon. Donc le mouvement était un échec. Alors que c'était un mouvement qui pouvait justement donner quelque chose sur le plan de la politisation. Donc, il ne faut pas s'étonner non plus que, bon, du coup, les plus radicaux des jeunes se disent « no future », ce n'est pas la peine, puisque de toute façon, on n'aura jamais d'interlocuteur, on se fera toujours taper dessus. Parce qu'on parle de la violence de la police, hein, en disant « violence raciste ». Mais les Gilets jaunes n'étaient pas spécialement ethnicisés. Et le mouvement des Gilets jaunes a duré bien plus longtemps pour répondre à ce que M. Brochand ou Zemmour disent. Là, ici, on a eu 4 jours d'émeute. Bon, ce n'est rien du tout, ce n'est pas une guerre civile. Les Gilets jaunes, ça a duré beaucoup plus longtemps. Ils étaient beaucoup plus teigneux, à juste titre. Ils se sont fait taper dessus très violemment par la police, alors qu'ils n'étaient pas délibérément violents eux-mêmes. Donc il y a une violence de la police, et la police est présentée comme garant de l'État de la République, donc forcément, vous avez là aussi un rejet de l'ensemble des institutions quand la première institution qui en a affaire, c'est une police violente.
Alors, il y a un autre fait marquant, même si peu le mentionne, hein, surtout pas les idéologues dont on parlait à l'instant, c'est que malgré tout, les armes n'ont pas été sorties. Il n'y a pas eu de tir sur des policiers. Il y a eu des blessés, bien sûr, chez les policiers, plus qu'en 2005, évidemment, enfin, vu la proportion qu'ont pris ces émeutes. Mais il n'y a pas eu de tentative de meurtre.
Même à Marseille, où pourtant il y a les Kalachnikovs.
Bon. Même à Marseille, où on est
attrape,
très...
je suis moins sûr qu'il y a les Kalachnikovs.
On est apparemment équipé.
Oui. oui, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'armes.
Et
oui,
comment vous l'expliquez, alors?
Parce qu'on est dans l'émeute. On n'est pas dans l'insurrection. C'est ça que ne comprennent pas la droite. C'est une émeute. Bon. Ils sont là pour piller, ils ne sont pas là pour descendre du flic. Ils se vengent sur les signes de richesse, toute relative, bien entendu.
Vous pensez qu'on est encore au stade de la violence symbolique, donc?
Oui.
Et du coup, d'un message envoyé, même s'il est sans mots.
Bien sûr. Bon, alors, je suis un peu méfiant par cette utilisation du terme message, parce qu'on a l'impression qu'on décrypte le message et on envoie un autre message. Bon, le problème, c'est que c'est comme ça que la politique fonctionne aujourd'hui. Elle fonctionne comme de la communication. On est dans la pure com. Bon, Twitter a plus d'importance que la politique à mettre derrière. Il suffit d'annoncer quelque chose dans un tweet, on n'a plus besoin de le réaliser, ça n'a plus d'importance. Ça, ils ont très bien compris. Donc, c'est une violence qui ramène au réel, mais ça n'est pas une demande de type politique. Alors que les Gilets jaunes, c'était une demande de reconnaissance.
Alors effectivement, vous avez écrit récemment un livre, c'est votre dernier livre au Seuil, L'aplatissement du monde sur la crise de notre modèle culturel. Quand on voit les formes spécifiques qu'ont pris en 2023 ces émeutes, forcément on y relève un écho frappant, aussi bien en termes d'exaltation de soi sur les réseaux sociaux que de razzia décomplexée, à visage découvert sur des vêtements de marque. Pas seulement, hein, je le signale aussi, parce que des supermarchés, et même des supermarchés low cost, ont été totalement dévalisés. Donc on ne peut pas ne pas faire un lien aussi avec l'inflation et la situation sociale de ces gens. Quel lien vous établissez du coup avec les constats que vous dressiez dans votre livre ?
Alors, mon premier constat, c'est ce que j'appelais la crise de l'implicite. La disparition de l'implicite, c'est l'implicite partagé d'une culture au sens simplement anthropologique, sans parler même de la haute culture, qui est évidemment en crise depuis bien plus longtemps. Et le fait que maintenant, les gens s'organisent dans le cadre de ce que j'appelle des subcultures, où évidemment Internet joue un très grand rôle, et où on s'associe avec des gens qui nous ressemblent. Ou plus exactement, on s'associe à des gens qui mettent en avant les mêmes marqueurs identitaires que l'on souhaite mettre soi-même. Et avec ces gens-là, on a un rapport qui reste très virtuel. Et quand le rapport devient réel, c'est l'émeute ou le speed dating. D'ailleurs, pour moi, c'est le même type de rencontre, c'est-à-dire une rencontre soudaine, brève, hein, et après, on revient dans sa bulle virtuelle. Et on ne construit pas de lien social dans les deux cas. Quand on se construit comme ça, dans une espèce de subculture avec des gens qui vous ressemblent, l'autre devient encore plus l'ennemi, parce que l'autre devient quelque chose avec laquelle on ne partage plus rien. Alors même que ça peut être son voisin. On peut le côtoyer au travail, etc., etc. Donc on a la crise de la culture aujourd'hui, s'accompagne très logiquement d'un accroissement de la violence des relations sociales. Parce que ces relations sociales n'ont plus d'ancrage réel. Et quand on a violence des relations sociales, on a extension des systèmes de normativité. On se protège en créant de plus en plus de règlements, de plus en plus de lois, de plus en plus de codes. Hein. On va coder l'ensemble des relations sociales, à commencer par les relations sexuelles par exemple, parce que justement l'implicite, non seulement il n'y en a plus, mais on n'en veut plus. Hein. On ne veut plus de non-dit. Tout doit être explicite. Mon identité doit se décliner en un certain nombre de marqueurs. Et je demande le respect de ces marqueurs. Et je demande d'être protégé par la loi. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve à droite comme à gauche. La droite appelle ça le woke, mais ça n'a pas de sens, puisque la droite fait exactement la même chose. La droite est tout aussi woke. Elle applique aussi la cancel culture, où on interdit certains types d'enseignement, etc. Bon. Donc, la violence politique, même quand cette violence reste symbolique, est une conséquence, pour moi, d'une crise beaucoup plus générale de la culture.
Il se dit beaucoup... j'écoutais ce matin même sur France Inter une des figures des Républicains, mais ça se dit aussi dans l'armée, ça se dit aussi dans la police, que ce n'est pas l'État français qui a stoppé ces émeutes, qui les a contrôlées, ce sont les trafiquants de drogue, ce sont les caïds dans les quartiers qui auraient fait passer le message que les points de deal, qui parfois rapportent des dizaines de milliers d'euros par jour hein, dans certains quartiers, à Marseille et pas seulement, ne supportaient plus cet arrêt brutal. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse ?
D'abord, on n'a aucun élément pour le dire. Ensuite, on disait, avant les émeutes, on disait, oui, les quartiers où il y a de la drogue, il n'y a pas d'émeutes. Bon, ensuite, il y a des émeutes dans les quartiers où il y a de la drogue. Alors, pour maintenir l'idée que c'est la drogue qui tient les quartiers, on dit, oui, mais si l'émeute n'a pas duré, c'est parce que des trafiquants sont intervenus. Un, on n'en sait rien. Deux, si l'émeute n'a pas duré, c'est tout simplement parce qu'on a pillé tout ce qu'il y avait à piller. Je veux dire, une fois qu'on a pillé son périmètre d'action, parce que c'est toujours très localisé, ces émeutes-là, eh bien, on rentre chez soi, avec son butin.
Alors, il y a aussi eu une féroce répression hein, qui pèse, bien sûr, hein, sur, enfin, voilà, sur cette issue finalement plus rapide que prévu. On a envoyé le RAID, on a envoyé le GIGN. Ça, je voulais absolument vous poser la question parce que ce sont des unités qui sont mobilisées contre le terrorisme ordinairement et qui, cette fois, ont été mobilisées contre une partie de la jeunesse. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Le symbole est très fort et très négatif, bien entendu, puisque c'est un symbole de guerre. Sur le terrain, ça n'a aucune... Vous envoyez le RAID contre des gamins de 13 ans, bon, ça n'a aucun sens. Ils s'écartent quand le RAID arrive et puis ils vont continuer. Il n'y a pas eu de reconquête des quartiers par la police, c'est pas vrai.
Vous pensez que de la part de l'État, on était dans l'ordre symbolique ?
Oui, oui, bien sûr, parce que, comme je disais, on fait de la communication. C'est les tweets qui comptent. Et les photos, alors la photo d'un blindé du RAID, ça fait très bien. Mais sur le terrain, c'est rien.
Comment est-ce que vous interprétez le silence du président de la République depuis ces événements? Parce qu'on l'a vu se mettre en scène en Conseil des ministres et on l'a vu lâcher quelques petites phrases sur les jeux vidéo, les parents, sur le fait qu'il cherchait à comprendre ce qui s'était passé. Mais on n'a pas eu d'adresse solennelle hein, au peuple français, alors qu'il n'est pas avare d'habitude de ce genre de mise en scène, hein, puisqu'on était en guerre contre le Covid. Il a aussi multiplié ce type d'intervention au sujet de l'Ukraine et à bien d'autres occasions. Comment expliquez-vous ce silence?
Le président est complètement coupé du social. Il ne comprend pas la société française. Il pensait que son libéralisme, à la fois sur le plan des mœurs, qui attirait une certaine gauche ou centre-gauche, et sur le plan économique, était censé attirer la droite. Bon, ben, ça ne marche pas. Nous ne sommes pas une start-up nation et tous ces trucs-là. Il a démantelé la haute fonction publique sans la remplacer par quoi que ce soit. Il est perdu. Je veux dire, il ne sait pas quoi penser. Et comme c'est un narcissique, bon, il va forcément réagir à un moment donné par une déclaration. Il fera une déclaration, un jour ou l'autre.
Pour terminer cet entretien, certains sont en train de tirer la conclusion de ces événements que l'intégration à la française, c'est absolument terminé. L'assimilation, n'en parlons même pas. Et que désormais, on va entrer dans une ère du containment, c'est-à-dire qu'on va gérer ces quartiers de façon uniquement sécuritaire et les laisser se ghettoiser toujours davantage. Hein. Beaucoup pensent qu'on est dans une évolution à la brésilienne. Est-ce qu'il nous reste encore une chance, à vos yeux?
Alors, ce discours sur les classes dangereuses, il est en France depuis 1850. Hein. Il y a eu la Commune, il y a eu... Bon, c'est absurde à deux niveaux. Un, territorialement, c'est-à-dire que les zones d'émeute sont très circonscrites, très précises, etc. Et deux, sociologiquement, parce que ces quartiers, ce n'est pas des ghettos, contrairement à ce qu'on croit. On essaie de les transformer en ghettos, mais ça circule. Et le problème, c'est que ceux qui réussissent les quittent. Et on voit comment. Prenez la société française, allez dans un hôpital, regardez la liste des chirurgiens et regardez le nombre de gens qui ont un patronyme musulman. Faites la même chose chez les journalistes, faites la même chose dans les cabinets d'audit, faites la même chose chez les conseillers financiers, dans les banques, chez les avocats, etc. Vous voyez parfaitement que l'intégration a fonctionné, mais avec un résidu non intégrable parce que l'économie n'est pas intéressée par ce genre de gens-là, parce que le système éducatif est en crise. Bon, et alors on va gérer ces zones, ces espèces de ZAD, oui, par des moyens policiers, par des petits pansements, par des choses comme ça, dans l'empirie la plus totale, sans aucune vision, et ça continuera comme ça. Je veux dire, bon, ça ne va pas empirer.
Quels seraient les mots que vous prononceriez pour, si vous deviez essayer de faire comprendre aux Français ce qui s'est passé?
C'est la crise du lien social. Mais ça, les gens le savent bien. C'est pas la peine d'être dans les banlieues pour voir qu'il y a une crise du lien social, une crise de rapport entre les gens, de courtoisie ou de violence. L'augmentation de la violence dans la relation sociale, on la voit à tous les niveaux. C'est pas simplement une question de jeunes de banlieue. Donc il y a tout ce problème de recréation du lien social et je dirais de recréation d'un imaginaire social partagé. Et là, sur le marché, il n'y a pas grand-chose.
Merci, Olivier Roy. Je rappelle le titre de votre dernier livre, L'aplatissement du monde aux éditions du Seuil. J'espère que vous aurez l'occasion de revenir bientôt sur QG pour une discussion encore plus longue. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que QG est un média à 100% indépendant, que nous n'avons ni publicité, ni oligarque, ni subvention, que nous sommes financés uniquement par nos abonnés. Je vous invite donc à nous soutenir dès ce soir sur QG.media. À très bientôt. Bel été à vous.